Saint-Saëns. Que Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux sieur de Terrien.
Oh, 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 oh que oui! François, on dirait que tu te transformes en Super Saiyan quand la chronique commence.
Moi, c'est un galop de boxe, puis c'est ma toune d'entrée dans le ring.
C'est ça, c'est carrément ton ça. Bruce Buffer. Comment il s'appelle, donc?
Michael Buffer.
Michael Buffer.
C'est qui, Bruce Buffer? C'est son frère?
Je sais pas. Sa sœur.
Michael. Ça ne doit pas être sa sœur. Ça ne doit pas être... Non. Michael Buffer, puis le gars du UFC s'appelle, mesdames, messieurs, Bruce Anthony Buffer.
Ah ouais, je ne sais pas si c'est son parent.
Ben, je me demande si ce n'est pas des frères, on en fait dans le même.
Logiquement.
Bon, ouais. En tout cas, donc François, aujourd'hui, dans la grande série Bien Plus Que...
Ah, oui.
Demi-frère de Michael Buffer.
Bon.
Dans la grande série Bien Plus Que, on a plusieurs personnages et qui sont tous... Bien plus qu'une salle de spectacle.
Et voilà. J'ai décidé de faire ça parce que on fête cette année les 50 ans du théâtre Le Trident. Puis, évidemment, au Grand Théâtre, les salles de spectacle ont des noms d'individus.
Oui.
Qui sont ces individus? Puis, il y a d'autres salles de spectacle aussi qui ont des noms de personnages historiques de notre histoire. Donc, j'ai décidé de faire ça sur les salles de spectacle. Alors, on commence avec les deux salles du Grand Théâtre. La première, Octave Crémazie. Octave Crémazie, c'est la plus intime des salles du Grand Théâtre. Il y a 500 places environ dans la salle Octave Crémazie.
Alors, présentation en bonne et due forme. Octave Crémazie, bien plus qu'une salle de spectacle.
Il est considéré comme le premier poète du Québec. Il est né à Québec en 1827, mort au Havre en France en 1879. Il avait 52 ans. Deux de ses œuvres se démarquent. Le Vieux soldat canadien, écrit en 1855, et Le drapeau de Carillon en 1858. Le drapeau de Carillon, c'est l'ancêtre du Fleur-de-Lysée. C'est de là que part le Fleur-de-Lysée. On en avait parlé, je pense, dans une chronique l'année dernière. C'est un poète, lui. Alors, c'est des poèmes. Ces deux œuvres-là, ce sont des poèmes. Crémazie vise à éveiller la ferveur nationaliste de ses compatriotes en exaltant les exploits des premiers habitants de la colonie. Dans le cas du Vieux soldat canadien, là, on parle aussi de Napoléon, parce qu'à l'époque où Napoléon fait ce qu'il veut en Europe ou à peu près, ça ravive l'attachement à la France, au Canada français, et l'espoir lointain que les Français reviennent ici et qu'on redevienne la Nouvelle-France. Parce que vraiment, là, Napoléon, là, il fait ce qu'il veut en Europe, sauf avec les Anglais, puis finalement... Et il va échouer, mais je n'ai pas l'impression que Napoléon avait l'intention de traverser l'océan. Il était bien avec ce qu'il faisait en Europe. Ses écrits sont relativement peu nombreux, cependant, à Octave Crémazie. Et l'apport de ce monsieur-là à la littérature québécoise se résume davantage à la librairie qu'il a tenue pendant 20 ans à Québec. Entre 1840 et 1860, il était propriétaire d'une librairie. C'était le rendez-vous de l'élite culturelle de la ville à ce moment-là. Octave Crémazie a été aussi le président de l'Institut canadien en 1857 et 1858. Il fut aussi à l'origine de la création d'une revue qui s'appelait Les Soirées canadiennes. Alors, avant M. Bilodeau, là, allons-y en avant la musique, là, il y avait une revue qui s'appelait Les Soirées canadiennes. Cette revue-là diffusait des textes écrits par des Canadiens français concernant des histoires ou des légendes de la Nouvelle-France et après la conquête. Cette revue-là a aussi permis l'édition de certains ouvrages, dont Les Anciens Canadiens, écrits par Philippe Aubert de Gaspé. Octave Crémazie et d'autres, comme François-Xavier Garneau et Louis Fréchette.
Bien plus qu'un cégep et bien plus qu'une autre salle de spectacle.
Oui, on va en parler, Louis Fréchette. Bon, ben, ces gens-là sont au cœur de ce qu'on a appelé le courant littéraire autour de 1860. Octave Crémazie va s'exiler en France à partir de 1862, après la faillite de sa librairie. Puis il va rester en France le restant de sa vie, là, où il va mourir une quinzaine d'années après, en 1879.
Donc, parlons-en de Louis Fréchette, bien plus qu'une autre salle de spectacle.
Oui, c'est la salle principale du Grand Théâtre qui porte ce nom-là. Lui aussi, c'est un poète protégé d'Octave Crémazie, né en 1839 à Lévis. Il décède à Montréal en 1908. 79 ans. Son père est analphabète, mais le jeune Fréchette développe très jeune un goût pour les lettres. Il sera expulsé du séminaire de Québec. Ça, c'est drôle, parce qu'il écrivait ses vers en français plutôt qu'en latin.
Ah ben, le petit Vlimeux, toi.
Oui, c'est un rebelle.
Oui.
Louis Fréchette, c'est un rebelle. C'était un auteur prolifique. Là. Contrairement à Octave Crémazie, lui, des œuvres, il en a fait. Il y a plus de 400 écrits à son actif. Beaucoup de poésie, évidemment, mais aussi des contes, des nouvelles, des pièces de théâtre et des chroniques historiques. Son œuvre majeure, La légende d'un peuple, a été publiée en 1887. C'est un poème épique qui retrace la vie des héros du Canada, de la fondation de la Nouvelle-France jusqu'au 19e siècle. Il a pratiqué plusieurs métiers, M. Fréchette, étant journaliste et avocat, entre autres. Il a été aussi député à Ottawa, même s'il était un ardent pourfendeur de la Confédération. Lui, la Confédération, il trouvait que c'était mauvais pour les Canadiens français.
Il est allé se battre à Ottawa.
Ouais, effectivement. Il n'a pas été député longtemps, mais pendant 4 ans, à peu près un mandat. Il a d'ailleurs écrit La voix d'un exilé, une polémique poétique décriant l'acte de Confédération lorsqu'il vivait à Chicago. Il a vécu un bon bout de temps à Chicago, M. Fréchette. Et d'ailleurs, plusieurs de ses œuvres ont été détruites là-bas parce qu'en 1871, il y a eu un méga incendie qui a rasé la ville. Lui, il était là à ce moment-là. Puis à peu près toutes ses œuvres qui étaient là-bas, ben, y ont passé. La maison de son enfance, rue Saint-Laurent à Lévis, parce qu'il est né là, à Lévis, sur la rue Saint-Laurent.
Les parties de famille des Charron, ça a longtemps été à la maison Louis Fréchette à Lévis.
Ah. Ben voyez-vous.
Au bout de Saint-Romuald, sur le bord du fleuve. Là.
En fait, c'est entre...
C'est une belle maison.
C'est entre le quai de l'Ultramar puis la marina de Lévis.
C'est ça.
La maison est entre ces deux éléments-là. Puis c'est un élément culturel important sur la Rive-Sud. Là. On a conservé un peu la vocation de la maison, si vous voulez. Alors voilà, puis elle s'appelle la maison.
Je pense qu'il y a encore des spectacles, effectivement.
Ouais, je pense que oui.
Tu peux la louer pour des événements, ce genre de choses. Nous autres, c'est vraiment les parties de famille qu'on faisait là, parce qu'on est une grosse gang, là. Mais tu peux louer ça. Parce que je sais pas si c'est encore le cas, parce que là, ça fait plusieurs années que c'est.
Avec la pandémie, ça doit être plus ordinaire, là.
Oui, pandémie aussi, là. Moi, je réfléchis tout le temps comme s'il n'y avait plus de pandémie.
Mais il y a des expositions aussi à cette maison-là.
Oui, t'as raison. Maintenant, une salle de spectacle. Ben, un personnage qui est bien plus qu'une salle de spectacle. Très, très connu à Québec, peut-être le plus connu à Québec, Albert Rousseau.
Oui, en fait, Albert Rousseau, on le connaît pas beaucoup, mais on connaît la salle. Là.
Mmh, c'est ça.
C'est la salle de spectacle du Cégep de Sainte-Foy qui a reçu ce nom en 1983, un an après le décès de l'artiste. Qui était Albert Rousseau? C'était un peintre. Okay. Né à Saint-Étienne-de-Lauzon en 1908, décédé au même endroit en 1982 à l'âge de 73 ans. Il s'est distingué par ses portraits de la nature québécoise. C'était un peintre paysagiste. La reconnaissance a été longue dans son cas parce qu'il a commencé à vivre exclusivement de son art alors qu'il était âgé de 57 ans. Il était dans l'hôtellerie.
Faut être tenace hein, quand même. Ouais, faut aimer ça.
En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait de la peinture puis il travaillait dans un hôtel, de ce que j'ai compris, pour arrondir les fins de mois, en fait, pour pouvoir vivre. Puis la beauté de ses peintures ont été reconnues ici, aux États-Unis et en Europe. Fait que là, c'est à partir de ce moment-là, au moment où sa renommée a dépassé les frontières du Québec, qu'il a pu vivre de son art. Il peignait aussi en milieu urbain. Là, il en a fait une de la rue Petit-Champlain, entre autres. Alors, Albert Rousseau, donc. Puis il y avait un moulin à Saint-Patrice de Beau-Rivage qui a transformé en genre de musée pour l'art ou
galerie d'art.
Ouais, une galerie d'art, c'est ça, exactement. Où des artistes venaient peindre. Puis à chaque été, les gens pouvaient aller là. Puis c'était un endroit qui était très, très, très populaire.
La salle Dina Bélanger. C'est qui Dina Bélanger? Puis là, j'avoue que celle-là, je la connais un petit peu moins.
Ah, moi, je la connais.
Je pense que je suis jamais allé voir des spectacles à la salle Dina Bélanger.
C'est une salle à manger.
Pas vraiment.
Idina là-bas.
Non, c'est ça, on avait compris.
C'est une salle de spectacle.
J'essaie tant que je peux de défendre les jeux de mots, mais tu m'adonnes pas facile à matin, Alexis. Là.
J'essaie.
Dina.
Là.
Alors, c'est une salle du collège Jésus-Marie parce que Dina Bélanger était une sœur de la congrégation Jésus-Marie. Née à Québec dans le quartier Saint-Roch en 1897, elle est morte à 32 ans seulement de la tuberculose. C'était une jeune fille très douée pour la musique. D'ailleurs, on l'a envoyée étudier à New York avant qu'elle ne décide d'entrer dans les ordres, comme on disait à l'époque. Avant de joindre la congrégation, elle donne des concerts de piano entre 1918 et 1921, tous au profit d'œuvres de charité. Elle a vécu avec la tuberculose pendant un bon bout de temps, pendant 5 ans, attrapée en soignant une élève qui était atteinte de la scarlatine. Elle laisse derrière elle des pièces musicales ainsi que des poèmes. Elle a été déclarée bienheureuse par l'Église catholique. Là, comme on dirait en latin, c'est un step en dessous de la sainteté.
Bienheureuse, ça veut dire que nous autres, en 2021, on va dire, moi, je suis bien content pour elle.
Ouais. Et voilà.
Alors, c'est pas tout à fait de la même affaire, là, mais...
Semi.
Dina Bélanger.
Maintenant, Edwin Bélanger. Je sais pas
si son parent...
Mais Edwin Bélanger, par contre, là, il faut qu'on apporte une précision. Tous les personnages qu'on vous mentionne depuis tantôt sont bien plus qu'une salle de spectacle. Edwin Bélanger est bien plus qu'un kiosque.
Et voilà, c'est ce qu'il faut dire. Le kiosque Edwin Bélanger porte ce nom depuis 1993. C'est l'endroit sur les plaines d'Abraham, là, derrière le musée des Beaux-Arts, où l'on présente des concerts pendant l'été. Edwin Bélanger est né à Montmagny en 1910. Il est mort à Québec en 2005. Il avait 94 ans. Ouais, quand même. Il avait 94 ans quand il est mort, Monsieur Bélanger. C'était un violoniste de talent. Il a perfectionné son art en Europe avant de revenir à Québec dans les années 30. Il a fondé le Cercle Philharmonique de Québec, qui en ces temps-là était en compétition avec la Société Symphonique de Québec, sauf que plusieurs musiciens, dont M. Bélanger, étaient membres des deux groupes. Alors, ce qui devait arriver arriva, une fusion intervint en 1942.
Je m'excuse, je suis flabbergasté par l'utilisation du passé simple.
Ben, ça me fait
bravo pour intervint.
Ça me fait plaisir, ma prochaine...
Ça m'a empli de bonheur orthographique.
Mon prochain objectif, le plus que parfait du subjonctif. Alors donc, en 1942, le Cercle Philharmonique de Québec et la Société Symphonique de Québec fusionnent et ainsi naquit l'Orchestre Symphonique de Québec.
Vous devriez voir la fierté dans les yeux de François.
Quand même.
Ainsi naquit, j'adore, c'est trop.
Alors, Edwin Bélanger devient le premier directeur musical et artistique de l'Orchestre Symphonique de Québec à sa création en 1942. Il a aussi eu une carrière militaire pendant laquelle il a été le directeur de musique du Royal 22e Régiment, qui était un poste très, très prestigieux à l'époque. Alors, ça vous donne une idée, là, ce monsieur-là, là, pour la musique classique à Québec, là, c'est pas mal le pionnier.
Aussi prestigieux que Québec se lève,
ça? Pas tout à fait, là,
mais presque.
C'est comme le bienheureux, t'étais un step en dessous.
C'est ça, il était le step de bien
son,
content.
Un de ses fils, Guy Bélanger, est un ténor reconnu au Québec.
Ah, je savais pas que c'était
et
son
moi,
fils.
Moi, je suis allé à l'école au secondaire au Collège des Jésuites avec son, je pense que c'est son petit-fils, Lester Bélanger.
Ah bon, ben écoudonc.
Ah, essaye donc de battre ça, Alexis.
Hein?
Toi.
C'est incroyable, hein?
Pas grand-chose.
Même dropé.
Plus, sincèrement.
Moi, je connais un gars, je connais un Bélanger, mais... C'est tout.
Fin de l'anecdote.
Fin de l'histoire. Hey, mais François, on va terminer avec Aline Lebel. J'avoue que celle-là, moi, je la connais moins.
C'est pas une salle de spectacle.
Ah, c'est
Aline
c'est,
Lebel.
Elle
c'est
est bien plus que quoi?
Elle est bien plus qu'un édifice.
Ah, Aline Lebel. Alors, Aline Lebel, bien plus qu'un édifice.
C'est l'édifice qui est situé sur le boulevard Langelier, au coin des Commissaires, face à l'hôpital général. Dans le fond, là, vous êtes en face de...
Quand vous descendez
Langelier, vous arrivez
comme
au
l'air
bout.
D'une école, un peu.
Ben, c'était l'ancienne école des métiers de Québec.
C'est ça, hein? Oui, je sais direct de quoi tu parles.
Ça a été construit entre 1909 et 1911. Et aujourd'hui, cet édifice-là, qui s'appelle Aline Lebel, regroupe plusieurs organismes culturels de Québec, dont le Conseil de la culture de la région de Québec. Aline Lebel, c'était une historienne et elle a été présidente du Conseil de la culture de la région de Québec. Alors, quand on a déménagé tous les organismes culturels là, quelque part dans les années 90, on lui a donné ce nom-là. Madame Lebel était une des fondatrices de la revue Cap au Diamant, une revue d'histoire de Québec. Et l'édifice construit face à l'hôpital général, c'est un joyau architectural qui est méconnu de Québec parce qu'on passe pas souvent dans ce coin-là. L'édifice a été conçu par l'architecte René Pamphile Lemay, un élève de Joseph-Ferdinand Pichet. Outre cet édifice-là, René Pamphile Lemay a réalisé les plans de l'église Saint-Dominique, qui est sur la Grande Allée. Alors, si jamais vous passez par Langelier, là, et puis que vous allez là, vers l'hôpital général, là, jusqu'au bout... Ouais,
ouais. C'est au coin de la rue.
C'est ça. Dans le fond, là, si vous arrivez sur le boulevard Charest, puis que vous tournez vers le nord, sur Langelier, là, au bout... Quand vous arrivez au bout, il y a une lumière à votre gauche, c'est l'édifice ça. Aline Lebel.
Oui, puis là, Joseph Ferdinand Pichet, puis René Pamphile Lemay, hein, c'est ça, j'ai entendu ça, ces noms-là.
Ben, en fait, Joseph Ferdinand Pichet, je vous en ai parlé lors de la chronique sur les architectes.
J'oublie rien. C'est pas vrai.
Ça, on n'est pas trop certain.
Ça, on n'est pas sûr. Et il y a une salle Edwin Bélanger à Montmagny aussi, nous dit-on par texto.
Bon, voyez-vous.
Il y a une salle Edwin Bélanger à Montmagny.
Ce qui est normal, puisqu'il est natif de là.
Ouais, c'est ça,
puis,
exact.
Il y a un collège ou une école d'Ina Bélanger pour des enfants handicapés.
Sur la rive sud.
Pas juste handicapés.
Non?
Non, ça serait une école...
Il y a peut-être une aile ou un secteur de l'école qui est... Parce qu'on en parle souvent quand...
Je dirais Saint-Charles, là, mais...
Ouais, c'est dans Bellechasse. Ça, c'est dans Bellechasse.
Quand Bélanger, rien que pour être sûr...
Quand il y a des tempêtes, c'est une des premières
Saint-Michel, excusez-moi, c'est à Saint-Michel. Je te proche. Ouais. 8h56, minutes. François Terrien dit le sieur de Terrien. Merci, on s'en reparle la semaine prochaine.
Oui, sans faute.
Que Québec se lève. De retour.